Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui rappellera à ceux qui nous sont fidèles et qui apprendra à ceux qui nous rejoignent ce jour dans 24 notes secondes. Bienvenue à eux. Que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier, vraiment, qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans ou ailleurs, comme vous le souhaitez, depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Et ce jour, et j'en suis particulièrement heureux, nous allons consacrer cette émission de 24 notes secondes à un très très grand compositeur américain de musique de film, né le 4 décembre 1910 et mort le 8 septembre 1991. Une belle vie vraiment que celle d'Alex North, qui fut dans les années 50 et 60 certainement l'un des plus grands innovateurs de la musique de film et qui dans les années suivantes irriga par son influence nombre de compositeurs. John Williams, Jerry Goldsmith et quelques autres se réclament de ses mannes, et ma foi, ils font bien, car Alex North contribua dans les années 50-60, après la grande vague symphonique, à faire passer la musique de film à tout à fait autre chose, avec des formes sonores tout à fait originales, tout à fait étonnantes, tout à fait modernes. Bref, j'arrête les éloges, je vous laisserai juger par vous-même en écoutant quelques extraits choisis des compositions de cet homme formé à la Juilliard School et au Conservatoire de Moscou, dit ma petite fiche que je crois sur parole. Alex North, qui fut un élève d'Aaron Copland, certainement l'un des grands compositeurs américains de la première moitié du XXe siècle, et un des spécialistes du genre Americana, dont on continue à avoir quelques avatars certainement moins venus. C'est sans doute du fait que ses parents étaient immigrés de Russie que Alex North tient d'avoir commencé à apprendre la composition là-bas. À partir de 1936, de retour aux États-Unis, après donc avoir enseigné au conservatoire, au conservatoire de Moscou, Alex North commence à écrire d'abord des musiques pour des documentaires, des pièces de théâtre, des ballets, avant de passer deux ans au Mexique, d'où il ramène certainement de grandes influences qui illustreront des partitions fameuses composées bien longtemps après pour Viva Zapata en 1952, un film d'Elia Kazan avec Marlon Brando dans le rôle principal, pour L'Aventurier du Rio Grande de Robert Parrish en 1959, et même l'une de ses ultimes compositions pour Le Sous le Volcan, adapté de Malcolm Lowry par John Huston en 1984, et qui se passe comme ça qu'un sait. Chacun sait, au Mexique et sous l'influence du mezcal. Entre 42 et 46, ma foi, c'est la guerre, et Alex North l'a fait à sa façon, en travaillant comme arrangeur au sein de l'orchestre de l'US Navy, avant de signer en 1951 une partition tellement importante que je voulais garder pour la fin de cette émission. On l'écoutera donc, mais on la cite déjà, c'est celle d'Un tramway de mes désirs, un film d'Elia Kazan, là encore, avec Marlon Brando. Alex North enchaîne des partitions tout à fait intéressantes, et puisque j'ai déjà été assez bavard, on va écouter un extrait de l'une d'entre elles pour un film cette fois tourné en 1960-1961, un film marqué par le destin et par la mort. On va en redire deux mots, mais j'ai déjà dit deux fois que j'étais assez bavard, donc on passe à la musique. C'est un extrait de la bande originale d'un film de John Huston, ça s'appelait en anglais The Misfits, et en français Les Désaxés. On y retrouvait, excusez du peu, Marilyn, Clark Gable et Montgomery Clift dans les rôles principaux. Et la musique était donc signée d'Alex North dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà un extrait de la bande originale de The Misfits, Les Désaxés, un film de John Huston tourné en 1961 où, me semble-t-il, eh bien, la patte tout à fait originale, mais le mot est faible, d'Alex North se ressent bien, une musique qui mêle le symphonique, le jazz, avec une connotation tragique qui convenait bien à ce film, dont le scénario a été signé d'Arthur Miller. Arthur Miller qui fut, comme personne ne l'ignore, l'un des nombreux maris de Marilyn Monroe et qui avait écrit sans doute pour elle ce rôle de Rosalind Tabor, une femme un peu paumée qui finit par partir vivre dans un ranch où Clark Gable et Montgomery Clift capturent des chevaux sauvages pour en faire des chevaux domestiques, une métaphore transparente sur la condition humaine, magnifiquement interprétée, magnifiquement réalisée, un film tout à fait sombre et marqué par la mort, comme je l'ai indiqué, puisque le tournage eut lieu en 1960 et Clark Gable mourut le 16 novembre 1960, soit 2 jours tout juste après la fin d'un tournage qui avait été pour lui particulièrement éprouvant, puisqu'il avait tourné certaines scènes sans doublure, alors que c'est un film relativement physique. Quant à Marilyn, eh bien, il fallut attendre, si l'on veut, le mot est très mal choisi et je m'en excuse, 2 ans, pour qu'à son tour, elle quitte ce plancher bien sombre en 1962, en plein tournage, là encore tout le monde le sait, d'un film de George Cukor qui aurait dû s'intituler « Something's Got to Give », « Quelque chose doit craquer », fortement prémonitoire. Quant à Montgomery Clift, eh bien, il mourut 5 ans plus tard, mais disons que pour lui aussi, les Désaxés, The Misfits, constitua l'un des sommets d'une carrière, là encore, bien tourmentée. Nous sommes donc à évoquer Alex North et à ne pas nous soucier de faire un déroulé chronologique d'une carrière fort brillante, mais aussi fort diverse. Et on va faire un saut dans le temps, un saut arrière. Préparez-vous pour écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné cette fois quelque part en 1956. Alors un film, je l'avoue, que je n'ai pas vu et qui réunissait pourtant dans les rôles principaux rien moins que Catherine Hepburn et Burt Lancaster. En anglais, ça s'appelait The Rainmaker. En français, ça s'appelait Le Faiseur de pluie. Et c'était l'adaptation à l'écran d'une pièce. Une pièce d'un dénommé N. Richard Nash et qui racontait eh bien, une histoire de vieille fille et de pasteur. La vieille fille en question étant Catherine Hepburn, bien sûr, et le pasteur en question était Burt Lancaster qui tenait dans ce film plusieurs rôles. Bon, il s'agit d'un petit classique à l'intérêt fort limité, dit ma petite fiche. Et je vous le rappelle, ma petite fiche ne se trompe jamais. Mais en tout cas, c'est l'occasion d'écouter un nouvel extrait d'une nouvelle bande originale d'Alex North. Ça s'appelait « Le Faiseur de pluie ». Je ne vous ai même pas dit que le réalisateur en était Joseph Anthony. Par contre, et je le répète, la musique était signée d'Alex North sur Divergence FM. Un extrait, le générique sans doute, de la bande originale du faiseur de pluie The Rainmaker, une musique d'Alex North pour un film tourné en 1956, qui ne fut certainement pas l'une des plus grandes réussites d'un compositeur. Pendant que nous écoutions ce morceau, je relisais, si l'on veut, sa filmographie qui est relativement intense, tout particulièrement dans les années 40-50. Elle fut hélas plus rare dans les années 70 et 80 jusqu'à sa mort en 1991, comme je l'ai déjà indiqué. Et bien évidemment, il est comme toujours très difficile de choisir et d'écouter aussi des musiques en 30 minutes chrono, la durée de 24 notes secondes. Aussi bien n'écouterons-nous pas d'extraits des partitions pourtant magnifiques des deux péplums auxquels Alex North collabora en 1960. Il fut le compositeur du Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Une partition absolument magnifique. Et puis aussi, il fut en 1963, mais à ce film, nous avions, je crois, consacré une émission entière. Il fut aussi le compositeur du monumental Cléopâtre avec Elizabeth Taylor, nul ne l'ignore, dans le rôle de Cléopâtre, un film de Joseph Mankiewicz. C'est certainement le péplum le plus intelligent de tous les temps, jamais tourné, mais oui, bien plus que Gladiator, ça c'est sûr, et pour lequel Alex North avait composé une partition absolument colossale à l'aune de ce film de plus de 4 heures, dont on se souvient qu'il absorba un budget digne d'un petit pays d'Amérique latine et qu'il mit en danger, parce qu'il ne fut pas, son succès commercial ne fut pas à l'aune de son coût, qu'il mit en danger eh bien, la carrière. Et plutôt la carrière d'Elizabeth Taylor et puis aussi la société de production United Artists, ce qui me fait penser du coq à l'âne, si l'on veut, que Cléopâtre, c'était aussi la rencontre entre Elizabeth Taylor et Richard Burton, et que ces deux-là se retrouvèrent dans quelques autres films ensuite, au moins une demi-douzaine à ma connaissance, et notamment dans un autre film dont la musique était signée d'Alex North. C'est pour ça que j'y pense et que je le cite. C'était en 1966, la magnifique adaptation par Mike Nichols du fameux « Qui a peur ?» de Virginia Woolf, une pièce d'Edward Albee, je peux en attester, qui n'a rien perdu de sa violence bien des années plus tard. Et eh bien, il faut le reconnaître, dans les deux rôles principaux, la Taylor et le Burton faisaient merveille, et la musique d'Alex North, elle aussi, n'y était pas pour dans la réussite de ce film. On va écouter cette fois un extrait d'une musique tirée d'un film qui était lui aussi une adaptation littéraire, et en l'espèce celle d'un roman de William Faulkner, Le bruit et la fureur. Un film tourné en 1959, sauf erreur de ma part, et qui était une sorte de trilogie, c'est-à-dire qu'entre 1958 et 1961, eh bien, trois cinéastes qui utilisèrent tous les trois Alex North comme compositeur s'essayèrent pourtant à l'impensable, c'est-à-dire adapter William Faulkner au cinéma. À ma connaissance et à ma lecture, je vois peu d'écrivains qui se prêtent moins que William Faulkner à être adapté au cinéma. Tant le style, c'est l'homme et le roman, ma foi, trois s'y essayèrent, pardonnez-moi. En 1958, on eut The Long Hot Summer, je suppose qu'il s'agit de Lumière d'août. En 1961, sous la direction, sous forme de ma part, de Tony Richardson, on eut Sanctuaire, j'en bafouille, Faulkner au cinéma, j'en bafouille. Et en 1959, eh bien, on eut The Sound and the Fury, Le bruit et la fureur. Je pense que vous l'auriez deviné, un film signé du solide Martin Ritt, dans les rôles principaux duquel on retrouvait Yul Brynner avec des cheveux, c'était une nouveauté, John Woodward, Stuart Whitman et quelques autres pour une de ces histoires typiquement faulknériennes de misère et d'alcoolisme dans le sud des États-Unis. Le résultat n'était pas forcément très convaincant à l'aune du prix Nobel, par contre musicalement ça l'était. On écoute un extrait de cette bande originale dans 24 notes secondes. Des accents de jazz et tout à fait autre chose pour une musique vraiment étonnante à mon goût. Un extrait de la bande originale du Bruit et la Fureur, une musique d'Alex North pour un film de Martin Ritt. Pour cette émission, donc bientôt sur sa fin, consacrée à Alex North. Et en introduction, je vous avais indiqué que nous écouterions un large extrait de la magnifique partition écrite en 1952 pour le film d'Elia Kazan nommé Un tramway nommé Désir. Nul n'ignore, j'espère, qu'en l'espèce, il s'agit d'une pièce de Tennessee Williams, un auteur de théâtre en passe d'être à nouveau reconnu, et il le mérite bien. Une pièce créée en 1947 par un jeune acteur alors inconnu et dont le nom ne le restera pas longtemps, puisqu'il s'agit de Marlon Brando, choisi donc par Elia Kazan et par Tennessee Williams. Ma foi, coup d'essai, coup de maître, 855 représentations, excusez du peu, pour l'histoire de Blanche Dubois et de Stanley Kowalski. Autant dire qu'en 1952, il s'agit de porter à l'écran la pièce de théâtre. Eh bien, un acteur s'impose, en l'espèce Marlon Brando, et tous les autres acteurs et actrices de la distribution originale trouveront le même rôle au cinéma, notamment Karl Malden ou Kim Hunter, tous sauf un, puisque Jessica Tandy sera substituée dans le rôle de Blanche Dubois, Vivian Lee. Ma foi, un choix qui est relativement pertinent aussi, puisque si Vivian Lee n'avait pas été l'interprète de la création de la pièce, eh bien elle l'avait jouée sous la direction de son mari Laurence Olivier à Londres, quelque part là-bas dans la brume et les frimas. Le résultat est absolument éblouissant. Ce n'est que le deuxième film de Marlon Brando, mais personne, n'est-ce pas mesdames, n'aura oublié son t-shirt déchiré, ses déhanchements et cette histoire d'amour tragique et frustrée. Certainement l'un des grands films d'Elia Kazan qui en a, cela dit, filmé beaucoup. Un des rares cinéastes duquel je ne pourrais pas dire qu'il a tourné un mauvais film, même s'il a parfois fait des mauvais choix. Alors on va écouter, puisque l'heure tourne, un large extrait de cette bande originale, j'y tiens beaucoup. Un tramway de Ménésir, une musique d'Alex North dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui encore. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye.